France Culture.
Madame, le 30 septembre 1956, en fin d'après-midi, habillée en élégante jeune femme européenne, vous vous êtes dirigée vers le centre-ville d'Alger. Dans votre sac de plage, vous transportiez la bombe que vos camarades avaient préparée et qu'ils vous avaient chargée de déposer au Milk Bar. Ce même 30 septembre 1956, ma grand-mère m'avait emmené manger la dernière glace des vacances au même Milk Bar. C'est ce jour-là que vous avez choisi, madame, pour passer à l'acte. Un acte forcément meurtrier. Vous aviez 22 ans. J'allais en avoir 5. Par ce geste, j'ai été privée de ma grand-mère dont j'étais la petite fille unique et que j'adorais, et de ma jambe gauche, dont j'ai très rapidement appris à me passer. Nos vies ont basculé en même temps. C'est ainsi que, sans que nous ne nous soyons jamais rencontrés, nous nous connaissons. Pour moi, la route a été longue, parfois tortueuse, en tout cas toujours dense et intense. Pour courir sans tomber ni se cogner la tête, il vaut mieux éviter de regarder en arrière et aller de l'avant, ce que j'ai toujours fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter ce que j'ai fait, de ce que vous m'avez fait. Vous êtes, madame, la destinataire de cette lettre. Daniel Michel Chiche, lettre à Zora D.
Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Une série documentaire de Marceau Vassy, réalisée par Cécile Lafont. Épisode 4, sortir de la fatalité.
J'ai vécu pendant très longtemps en marge de la guerre d'Algérie, des anciens d'Algérie, des rapatriés qui vivaient à la fois dans le souvenir et dans une forme de rancœur, enfin de douleur en tout cas. Et la douleur qui dure entraîne souvent la rancœur.
Daniel Michel Chiche, rescapé de l'attentat du Milk Bar.
Donc j'ai vécu en marge de ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en 2012, j'ai eu envie d'écrire mon histoire, sans doute frappée par l'âge qui commençait à avancer sérieusement, par ma première petite fille qui était toute petite et qui me demandait ce que j'avais à la jambe et qu'est-ce que c'était que ce bobo et quand est-ce qu'il allait guérir, etc. Et en fait, je n'ai pu aussi écrire cette histoire parce que j'ai eu l'idée de l'écrire sous la forme d'une lettre et d'une lettre à Zora Drif, qui est la poseuse de cette bombe du Milk Bar, et à qui je dis en gros, voilà ce que j'ai fait de ce que vous m'avez fait. Et finalement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Mais on va quand même se poser quelques questions politiques et philosophiques. Et je lui dis, vous aviez raison, la décolonisation était dans le cours naturel de l'histoire. Mais là où vous avez tort, c'est que la fin ne justifie pas tous les moyens. Et j'appelle les justes de Camus à la rescousse pour dire, faut-il s'en prendre à la population civile ? Voilà, et c'est la question que je souhaitais lui poser à elle, puisqu'elle était directement impliquée.
C'était le 30 septembre 1956.
Nicole Guiraud, rescapée de l'attentat du Milk Bar.
C'était la veille de la rentrée des classes. C'est pas anodin. Et c'était au Milk Bar, c'est pas non plus anodin. C'était un glacier. Et la veille de la rentrée des classes, c'était la coutume. Les parents emmenaient les enfants faire une dernière balade. Donc, mon père me dit, alors tu viens ? Mais j'ai dit, oui, je viens. Donc, on a fait une grande balade tout le long du boulevard Front de Mer, qui est magnifique. Et puis, sur le chemin du retour, moi, j'attendais, il me pose la question rituelle, tu veux une glace ? J'ai dit, oui, bien sûr. Donc, on est rentré. Il y avait beaucoup de monde. On ne pouvait pas trouver de place assise, parce que c'était plein. Il y avait beaucoup de mamans avec leurs enfants. Donc, on était à la caisse. Moi, j'avais commandé ma glace. C'était une double glace, je me souviens. Et mon père était en train de payer. Et tout a sauté. Alors là, c'était tellement puissant que j'ai perdu l'ouïe pendant un bon bout de temps. J'étais complètement sourde. J'ai même pas entendu le bruit, en fait. C'était comme si ma tête implosait. Et j'ai été projetée à l'extérieur par le souffle, hein. Et tout le monde était sorti, les gens se marchaient les uns sur les autres, tout le monde courait vers la sortie, tout le monde hurlait. Enfin, c'était une scène de cauchemar. Hein. Et j'étais là, abasourdie, et j'appelais « papa, papa, papa ». Et puis enfin, il a fini par apparaître à travers la brume. J'ai encore des images très fortes dans la tête. Hein. Et lui-même, ma fille, Nicole. En fait, on se cherchait. Il a fini par me trouver, mais j'ai vu qu'il tenait pas debout, il avait la jambe complètement ensanglantée. J'ai remarqué ça avant de me voir moi-même. Il m'a soulevée, et là, j'ai vu que j'étais pleine de sang, de ce côté-là. Et je me sentais extrêmement lucide, d'une lucidité incroyable. Et je me suis dit, voilà, c'est l'attentat, un attentat dont tous les adultes parlent en ce moment. Eh bien, ça m'est arrivé à moi.
Nicole Guiraud avait 10 ans quand moi j'en avais 5 et nous mangions donc une glace au même endroit, au Milk Bar. Elle a perdu un bras et moi j'ai été blessée à plusieurs endroits et j'ai perdu une jambe. Et comme nous étions les deux plus jeunes, on nous a mis dans la même chambre d'hôpital. C'était bien, enfin elle était un peu grande pour moi, mais bon. Et puis voilà, et puis en 62 tout le monde s'est éparpillé et puis voilà, je n'ai plus de nouvelles jusqu'à ce que j'écrive ce livre et qu'elle me fasse une réponse, on va dire pas d'accord avec moi, où elle m'explique qu'en gros, elle n'a pas du tout le même vécu et la même appréhension de l'événement que nous avons partagé, puisque elle a souffert et elle souffre encore, semble-t-il. Bon, par ailleurs, elle crée, mais bon, évidemment, moi, j'ai construit ma vie différemment.
Donc, vous n'avez jamais eu de rancœur ?
Non, je n'ai jamais eu de rancœur, je n'ai jamais eu de désir de vengeance. Ma position, disons, politique faisait que je ne pouvais pas avoir cette colère de base.
Chère Madame Michèle Chiche, cher Daniel, je viens de lire votre ouvrage « Lettres à Zoradé » et tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le courage et la sincérité omniprésents dans ce récit passionnant. J'ai été très touchée par ce témoignage, pouvant parfois presque mot pour mot le faire mien. Car je suis Nicole Guiraud, cette grande que vous décrivez au début du livre comme passant son temps à dessiner. En effet, je n'ai cessé de dessiner. Je suis même devenue artiste plasticienne et aujourd'hui je partage ma vie entre le sud de la France et l'Allemagne. Je trouve primordial que la voix des victimes, même si vous récusez ce mot, se fasse entendre sans intermédiaire, directement, et qu'on les écoute, et qu'on les lise enfin. Le temps est venu pour cela. Cependant, progressant dans la lecture du livre, je me suis posé quelques questions concernant la ou les véritables destinataires. S'agit-il seulement de Zora Driff ou d'un certain public encore prisonnier des contes et légendes, d'autres diraient propagande, de la révolution algérienne. Ma vie n'a pas été aussi heureuse que la vôtre. Les traumatismes laissés par la guerre et l'exode de 62 ont failli avoir ma peau. Grâce à une longue psychanalyse, j'ai pu comprendre et savoir, mais en mettant la seule main qui me reste dans le cambouis, personne de mon entourage ne pouvant le faire pour moi. Nicole Guiraud.
C'est venu à l'adolescence, les gros problèmes. À l'adolescence, pour une fille, on veut être jolie, on veut être normale surtout, hein. Voilà. Et pour moi, ça a été très difficile. Je commençais à me camoufler, à pas montrer que j'avais un bras qui manquait. Le regard de l'autre, des autres, les regards des garçons, ça, c'est terrible. C'est terrible. Là, j'ai eu de gros problèmes avec ça. Et ensuite, il y a eu 68. Donc moi, j'étais jeune, j'avais 20-22 ans. Évidemment, je participais, comme tous les jeunes, au mouvement de jeunesse. Les hippies, tout ça, quoi. J'ai tout suivi. Et moi, je ne voulais pas m'intégrer seulement dans la communauté pied-noir, parce que ça ressassait toujours... La même douleur, la même souffrance, comme j'entendais chez mon père, par exemple. Et je voulais pas ça. Je voulais voir vers l'avenir. Et c'est trotskiste. J'avais l'impression qu'il m'offrait ça. Et c'était très, très bien jusqu'au moment où c'est devenu politique. Il disait devant moi, t'as perdu un bras, mais tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. L'omelette, c'était la révolution algérienne, l'indépendance. Et les œufs qu'on cassait, c'était les enfants qu'on mutilait et qu'on tuait, les victimes du terrorisme, c'était ça. Ça m'a énormément perturbée, tout ça. Mais ça, tout d'un coup, il y a quelque chose en moi s'est réveillé Une voix m'a dit, Nicole, ne subis plus ça maintenant, ça suffit. Il faut couper avec ça. C'est pour ça que je suis partie. Et j'ai eu cette chance de pouvoir partir en Allemagne. J'étais très intéressée déjà à l'art contemporain. Et je savais qu'en Allemagne, c'était vraiment la Mecque de l'art contemporain. Et là, je me disais, c'est là qu'il faut que j'y aille. Si je m'intéresse à ça, au moins, je pourrais me développer. Le fait que j'ai été acceptée telle que je suis en Allemagne, beaucoup plus qu'en France, qu'il n'y avait pas ce harcèlement politique, ça a été pour moi une façon de mieux m'accepter, puisque je me sentais mieux acceptée par les autres.
Le regard de Nicole Guiraud sur l'attentat du Milk Bar est très différent de celui de Daniel Michel Chiche, mais quelque chose les relie pourtant. Toutes les deux ont essayé, à leur manière, de sortir de la fatalité de cet événement, à travers l'écriture pour Daniel, les arts plastiques et la psychanalyse pour Nicole. Le travail artistique de Nicole Guiraud interroge le rapport aux souvenirs, les traces de la vie passée en Algérie et les séquelles de la violence. Dans sa série d'œuvres intitulée « Le monde en bocal », elle met en scène des figurines pour enfants subissant des attaques alors qu'elles sont enfermées dans des bocaux.
On reste avec ces problèmes, avec les drames qu'on a vécus, avec les pertes qu'on a eues aussi, parce que j'ai perdu aussi beaucoup d'amis, des gens de ma famille qui ont été aussi tués par le FLN ou des amis qui ont disparu, voilà. Donc on garde ces blessures. Moi je garde aussi mon handicap, hein, mon bras n'est plus là, il n'existe plus. Donc ma vie elle est pleine de trous, de manques, de pertes, de deuil, de souffrances. J'ai quand même fait 2 tentatives de suicide, entre-temps. Mais aujourd'hui, je suis très apaisée parce que j'ai réussi, grâce à l'analyse, hein, à l'accepter. À accepter que c'est comme ça, que je ne pourrai plus jamais changer ce qui est parti, ce qui est perdu. Et que je dois faire de ce qui reste, de ce que j'ai comme capacité, comme possibilité, comme temps aussi, parce que 79 ans, on approche des 80, hein, quand même, ça commence à devenir sérieux, mais de faire de ce temps qui me reste sur la Terre le meilleur possible.
Est-ce que vous vous êtes considérée comme victime dans cette histoire ?
C'est bien que vous utilisiez ce mot parce que je le déteste. Alors, en même temps, j'ai jamais trouvé de synonyme. Alors, je dis j'ai été blessée. Enfin, il faut des périphrases, mais il y en a pas d'autres. Parce que victime, c'est un moment M. Oui, j'ai été victime de la bombe du Milk Bar le 30 septembre 56. Simplement, maintenant, quand on l'emploie, c'est victime à vie, c'est-à-dire qu'on vous colle l'étiquette. Et moi, j'ai toujours détesté ce mot en disant mais c'est pas mon identité, ça c'est bon, bah c'est un épiphénomène qui est arrivé dans ma vie. Bon, parfois, par moment, c'est encombrant, hein, parce que il y a des souffrances annexes, etc. Mais c'est pas mon identité, c'est pas ça. Je suis une victime de l'attentat du Milk Bar, mais moi, je ne suis pas une victime. Point. Voilà.
Cher Daniel, c'est tant mieux pour vous si vous refusez le terme de bourreau. Cette décision vous appartient, mais elle n'est pas celle de la plupart des victimes. Pour ma part, je peux dire avec certitude que Zoradé ne fut pas seulement mon bourreau, mais parfois aussi, dans les instants où ma vie a failli basculer dans le néant, mon tortionnaire. Vous ne voulez pas votre nom parmi ceux des victimes, ou plutôt de ceux que vous entendez par victime. Je le comprends et le respecte. Mais il y a plusieurs façons d'être une victime. Pour ma part, je n'ai pas de problème avec ce mot qui recouvre une réalité, et cela suffit. En tant que victime du FLN, je me vois comme un témoin de l'histoire, celle qui est aussi la vôtre et que nous transmettons chacune à sa manière. Sur ces mots, ayant moi aussi dit ce que j'avais à dire, je vous quitte, cher Daniel, en vous souhaitant une bonne continuation sur le chemin que vous avez choisi. Nicole Guiraud.
L'histoire est comme une corde parcourue de nœuds, tendue entre deux dates. Ces nœuds, ce sont les tensions de la mémoire. Je me demande ce que nous, pieds noirs, descendants de pieds noirs, mais aussi algériens, enfants d'Algériens, et tous les protagonistes de ce passé colonial, pouvons faire de notre histoire et de ses mémoires. Comment peut-on transformer cette matière morte qu'est le souvenir en quelque chose de fécond pour l'avenir ? Comment peut-on déjouer la fatalité et les traumatismes passés pour essayer de délier ces nœuds mémoriels.
Quels sont un peu les souvenirs, les premières images qui vous reviennent quand vous évoquez l'Algérie ?
La première chose qui me revient, ce sont les arbres, ce sont les odeurs des arbres, ce sont toutes les orangers en fleurs, les figuiers en fleurs, tous ces arbres qui avaient des parfums incroyables, beaucoup d'eucalyptus aussi qui sont très très bons.
Elisabeth Pujol.
Oui, je dirais que c'est à ça que je pense, et je pense que c'est un peu ça que notre père, moi et mes frères et sœurs, voulaient nous léguer. C'était la notion de, une notion de, d'éternité. Je crois que pour mon père, la vie qui se perpétue, c'est beaucoup à travers les arbres. Et surtout, les arbres vivent vieux, ils vivent des centaines d'années. Donc, il avait l'impression que planter des arbres, ça voulait dire prolonger la vie d'une façon extraordinairement longue. Et que toujours, toujours, quelqu'un bénéficierait des fruits et des parfums de ces arbres. Et ce qui a été merveilleux, c'est que quand nous sommes retournés là-bas, nous avons rencontré tous les gens qui vivaient maintenant dans nos fermes et qui étaient pour beaucoup d'anciens ouvriers de la famille. Et mon père nous avait demandé, il nous a dit, moi, je n'attends rien de ce voyage que vous allez faire, je ne veux rien savoir, mais je voudrais que vous me rapportiez des boutures d'un figuier. Il a indiqué le figuier sur lequel nous devions prélever les boutures, parce que, d'après lui, c'était le meilleur arbre qui donnait une production de verdal. Mon père appelait ses figues des verdal. Et quand on est arrivé, devant la ferme, il y avait 3 ou 4 hommes. Et il s'est avéré que ces hommes étaient ceux qui étaient responsables de la ferme, qui était devenue entre-temps une ferme autogérée. Et alors là, on a expliqué qu'on avait un peu une mission, que mon père était tellement attaché à cet arbre qu'il aimerait bien qu'on prenne quelques boutures. Est-ce qu'ils y voyaient pas d'inconvénient ? Et ils ont eu cette phrase magnifique. Mais non, bien sûr, vous pouvez, ça sera un cadeau pour la famille. Ça me fait frissonner de vous le dire, quoi. C'est beau quand même. D'ailleurs, ils nous ont aidés parce que on a pris 10 de boutures. Et ensuite, mon père les a mis dans des petits pots, toutes ces boutures, et il les a préparées pour qu'elles se développent un petit peu. Il avait ses petits secrets, je sais pas trop ce qu'il mettait dans la terre pour que tout ça se passe bien. Et au début de l'année 80, il a planté dans plusieurs endroits de Porquerolles. Il en avait planté à Marseille, notamment dans une maison qui appartenait à mon oncle. Et aujourd'hui, c'est formidable parce que cet arbre s'est reproduit à Porquerolles, à Marseille, à Bastia. Et la dernière chose magnifique, c'est que les parents de ma belle-fille, Salima, c'est une Française issue d'une famille algérienne qui ont gardé une maison en Kabylie. Et là, ils y sont allés à l'automne dernier et ils ont planté 3 boutures qui ont été prélevées sur le figuier corse qui lui-même était un descendant du figuier de Pélissier. Donc il y a maintenant en Kabylie 3 figuiers issus du figuier de Pélissier. C'est une jolie histoire quand même. Et je pense que mon père, au fond de lui, aimait ce trait d'union que grâce au figuier, il avait pu tracer, qu'il avait pu faire entre la France et l'Algérie. Et je pense qu'il aurait été très heureux que ce figuier retourne en Algérie par le biais de la famille de ma belle-fille. Il en aurait été bouleversé même, je pense. Donc, il aimait bien que l'histoire de l'Algérie puisse aussi se résumer à un arbre qui avait pu être replanté ailleurs.
Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Ducéau. Je suis né en 83.
Quel est votre rapport avec Elisabeth Pujol ?
Elisabeth Pujol, c'est ma mère. Voilà. Donc, je suis son fils. Et mon lien à Salima, administrativement, on est paxé. Et puis, amoureusement, on est en couple.
Et moi, je suis Salima Tenfish. Je suis née en 84. Et mon lien avec Jean-Baptiste, c'est qu'on est pas accès administrativement. Alors pour les Algériens, on est rien. Pour les Algériens, je suis célibataire sur mon passeport algérien. Et on a deux enfants ensemble, Lazare, qui a 4 ans, et là on vient d'avoir Martial, qui est né il y a quelques mois. Et la première rencontre avec la famille Pied-Noir, c'était à Marseille. La première fois, j'avais déjà rencontré ma belle-mère, donc une famille très 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 sympa, chaleureuse, accueillante. Et la première chose qui me frappe, c'est que il y avait un gâteau de semoule, qui est exactement le gâteau de semoule qu'il y a dans ma famille. Peut-être une recette à peine différente. Il y a des poivrons, c'est exactement le même type de cuisine, ou en tout cas on retrouve les mêmes aliments, les mêmes produits. Mais beaucoup plus que la nourriture, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que dans sa famille, moi j'avais l'impression que c'était une réunion de famille, de ma famille ou de n'importe quelle famille rebeu chez qui je suis déjà allée. Et donc c'est là qu'on commence à réaliser qu'en réalité, l'accent pied-noir, c'est du français, enfin c'est de l'arabe version française. Il y a quelque chose comme ça. Et quand j'ai rencontré la famille de Jean-Baptiste et que j'ai commencé à penser le statut des pieds-noirs, la condition des pieds-noirs de cette manière-là, ben je me suis mise à parler d'eux comme les Algériens européens et plus comme des Français d'Algérie. C'est-à-dire des Algériens qui avaient un statut privilégié, un statut supérieur administrativement et dans les faits que les autres Algériens. Mais en fait, c'est des Algériens quand même. C'est-à-dire que ça nous fasse plaisir ou pas. Et moi, je parle de mon point de vue qui est donc je suis petite fille de FLN. Donc je suis vraiment dans le camp en face, on pourrait dire. Mais pourtant, je peux pas m'empêcher, et encore plus aujourd'hui où je suis comment on peut dire, en alliance avec une famille de rapatriés d'Algérie, enfin d'Algériens européens, voilà. Je peux pas m'empêcher de ne pas les voir comme des Algériens, je veux dire.
Ça fait 13 ans que on est ensemble avec Salima, et effectivement, en rencontrant ses parents, qui eux sont des Algériens, enfin ma mère aussi d'une certaine manière, mais enfin qui sont ethniquement pas les mêmes, qui n'étaient pas dans le même camp, je me suis rendu compte en fait que mon lien avec les pieds noirs, en fait, c'était une forme de lien avec les Algériens, puisque j'ai compris en fait que selon moi, les pieds noirs sont des Algériens blancs.
Mais votre mère, est-ce qu'elle vous en parlait de cette histoire ?
Non, j'ai pas. En tout cas, on n'a jamais eu de discussion sur. Mais j'ai jamais eu cette phrase de "Et toi, papa, qu'as-tu fait à la guerre ?" J'ai jamais demandé à ma mère. Et toi, c'était comment en Algérie ? Jamais. Donc maintenant on en parle, grâce à Salima en fait, parce que Salima elle rentre dedans pour essayer de savoir, mais on n'a jamais eu ce genre de discussion en famille.
Vous, Salima, quels sont vos rapports avec vos origines algériennes ?
Donc mon grand-père, il est mort au champ d'honneur, comme on dit, il est shahid plutôt, et dans la famille de mon père aussi, c'était indépendantiste. Moi, j'ai toujours su ça. Donc, on a une famille kabyle. Je suis berbérophone. On a toujours parlé kabyle. On a toujours su qu'on était algérien. On disait quand même plus qu'on était kabyle qu'on était algérien dans ma famille. On s'intéressait très très peu à la culture algérienne, pour ne pas dire que, surtout avec mes sœurs, on s'en détournait. C'est-à-dire que c'était un pur déni. Hein, mais ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, à 30 ans, quand j'ai rencontré justement. Elisabeth, qui faisait que me parler de l'Algérie, des auteurs algériens, de la littérature algérienne ou de l'art algérien. Et moi, je me disais, mais attends, c'est dingue, je me suis jamais intéressée à ça, alors que j'ai fait des études de lettres, j'ai toujours lu des auteurs d'autres pays, mais pas d'Algérie. Et tout d'un coup, je commence en rencontrant sa mère. Puis aussi, en travaillant à Nanterre, j'ai bossé au cabinet du maire de Nanterre. Et là, il y a plein d'élus, des anciens, des luttes antiracistes. Et là, ça m'a frappé au visage que je m'étais toujours... moi, je m'étais jamais vue comme arabe, hein, pour le dire clairement. Et je m'étais jamais intéressée à cette question de la race. Et même, j'aimais pas trop quoi qu'on me renvoie à ça. Bon, pourtant, je m'appelle Salima, on est à la radio, mais j'ai vraiment une tête d'arabe. Je veux boucler, je suis brune, je suis mate. Et pourtant, moi, j'étais pas concernée par ça. Donc, tout d'un coup, ça me saute au visage. Et puis, ensuite, je décide de reprendre les études, de faire une thèse sur le cinéma algérien. Et ça, je sais que c'est beaucoup lié au... Enfin, de m'être autorisée, en fait. De m'être autorisée à travailler sur cette question-là et donc à être identifiée comme algérienne ou enfant d'Algérien. Je le dois beaucoup, enfin, en tout cas, en grande partie, à ma belle-mère, ça, c'est sûr.
Le fait que ma belle-fille, Salima, soit une Française issue de famille, d'une famille algérienne et que mes deux petits-enfants aient une ascendance aussi bien française qu'algérienne, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique à raconter parce que c'est une jolie boucle. C'est enfin une rencontre après toutes ces décennies où on avait créé des murs. Et c'était une manière, en tout cas moi, dans ma propre famille, de pouvoir voir les choses autrement. J'ai été infiniment contente de rencontrer les parents de ma belle-fille.
Quand je vois aujourd'hui mes parents avec Elisabeth en train de discuter, de rire, de se prendre dans les bras, je me dis, mais c'est fou de se dire que chacun vivait dans son espace, quoi. Séparés. Ma mère était dans son école avec les petites filles indigènes. Là, j'ai vu une photo. Et c'est toute une classe composée uniquement d'indigènes. Puis mon père qui m'avait raconté aussi un jour qu'il faisait plein de petits boulots comme ça pour se faire des sous pendant la guerre d'indépendance et après. Et un des petits boulots, c'était de vendre des cacahuètes, je crois, à la sortie du théâtre de Béjaïa, ou des marrons. Ouais. Et moi, quand il m'a raconté ça, j'ai immédiatement fondu en larmes, parce que c'était pas le cireur de chaussures là, que, comme il s'appelle, Ben Bella a fait supprimer l'indépendance, mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. Je me disais, ah ouais, donc Elisabeth, peut-être qu'elle aurait pu sortir de ce théâtre avec ses parents, et en face, du même âge, peut-être qu'il y aurait pu avoir mon père lui vendant des marrons.
Confrontation que vous avez refusée, madame, en tête à tête, et je suis donc obligée de la faire en public. Mais je dois vous dire que oui, vous avez tué ma grand-mère et vous m'avez arraché une jambe. Alors je le dis sans haine, sans colère, sans désir de revanche, car j'ai fait du chemin. Si, madame, vous reconnaissiez que ce geste est un geste meurtrier, si justifié soit-il.
Est-ce que vous avez rencontré Zora Drift?
Alors, je l'ai croisée plusieurs fois, croisée de très près, mais je ne l'ai pas rencontrée parce qu'elle ne veut pas me parler.
Daniel Michel Chiche.
Donc, quand mon livre est sorti, très peu de temps après, quelques semaines après, il y a eu un énorme colloque à Marseille et elle était invitée et moi aussi. Et elle n'a pas voulu me parler. Elle a voulu que je l'interpelle de la salle, ce que j'ai fait. Je lui ai posé la question que je pose dans mon livre, c'est « Madame, vous aviez raison, la décolonisation était tout à fait normale, mais fallait-il s'en prendre à des civils, et notamment à un endroit comme vous l'avez fait, où il n'y avait en gros que des familles ?» Et elle m'a dit « Adressez-vous aux autorités de votre pays. »
Je vais encore certainement vous choquer, mais très honnêtement, ce problème, c'est pas à moi de le poser. Posez-le à tous les pouvoirs français qui sont venus à servir mon pays. Bien sûr, à titre personnel et à titre humain, bien sûr, tous les drames, que ce soit les vôtres, que ce soit les nôtres, sont bouleversants. Je peux vous raconter des milliers et des milliers de drames tels que les vôtres que nous avons vécus. Oui, à titre humain et personnel. Mais nous n'étions pas dans une confrontation personnelle, nous étions dans une guerre. Et voilà.
Et qu'est-ce que vous auriez attendu de sa part qu'elle vous dise ?
Un échange humain, c'est tout. Je n'attendais pas ni pardonnez-moi, ni enfin, je n'attendais rien de particulier qu'un échange presque historique, parce que c'est assez rare quand même que l'auteur d'un attentat ou l'autrice d'un attentat rencontre une de ses victimes. Ça n'arrive pas si souvent. Et en plus, moi, je n'allais pas lui sauter à la gorge. Donc, ça non plus, c'est pas si souvent que les victimes n'ont pas beaucoup de colère ou beaucoup de souffrance, etc. Et donc, un échange.
Thank you.
suis Martial Pardo. Je suis né en 1954, qui n'est pas une année anodine, à Sidi Bel Abbès, et le 5 juillet, qui est aussi une date très forte dans la mémoire de tous les Algériens et de tous les Pieds-Noirs.
Voilà, et moi, Nasser Hamzaoui, je suis né quelques mois après la naissance de Martial, donc en 1955, à Alger, dans un quartier à l'origine d'Alger, c'est-à-dire la Casbah d'Alger. Et j'ai connu Martial par la musique, des échanges, en fait une rencontre entre le jazz, le piano, et puis le shabi que moi j'ai acquis durant mon enfance à la Casbah.
Alors, en fait, je fais un travail de recherche de thèse sur la mémoire musicale des Européens en Algérie, et notamment à Oran. Et il m'arrive de faire des conférences où la ligne forte, c'est les Européens en fait connaissaient très peu les musiques arabes, ne les jouaient pas, etc. Alors que les Algériens connaissaient les musiques européennes, ils les entendaient dans les grandes villes, etc. Voire même, ils en jouaient parfois. Et donc, un jour, j'ai fait une conférence et Nasser était là. J'ai été le voir après et je lui ai dit, écoute Nasser, je vais pas rester toute ma vie à dire que on n'écoutait pas les musiques arabes. J'aimerais bien ne pas mourir idiot et me rapprocher de toi et qu'on répète vraiment et qu'on échange nos connaissances musicales. Voilà, c'est ce qui s'est fait il y a 2-3 ans.
Dès qu'on se voit, et plus souvent là depuis qu'on est à la retraite tous les deux, et on commence d'abord par un café. Et avant de toucher à nos instruments, il passe un temps d'échange, bien sûr, sur l'actualité d'aujourd'hui, et puis le retour en arrière, et refaire un peu le monde autour de ce café avant de commencer à jouer quelques notes. On s'enrichit tous les deux de nos échanges et on rattrape en fait le temps perdu. Hein. Enfant, on était séparés, mais là, maintenant adulte, on essaie de rattraper tout ce retard et on essaie de regrouper nos deux richesses.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás. Quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. تنسى وكري وحساني ونعود غريب براني يسهل لي يعشق في القلوب اللي ما يحنو يسهل لي يعشق في القلوب اللي ما يحنو قولوا يد العياني اللي رمها بالضاني فقهرني وبكاني الولف كيف سهل والفرق لا قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق لا قدرت عنه.
Je m'appelle Olivia Burton, j'ai 56 ans. Je suis fille et petite-fille de pieds noirs. Ce sont mes arrière-grands-parents du côté maternel qui ont quitté la France pour aller s'installer en Algérie à la fin du 19e siècle. Voilà. En fait, pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant l'adolescence et l'âge de jeune adulte, ça m'a plutôt ennuyé tout ça, parce que à force d'entendre tous ces récits que je comprenais pas très bien, que j'arrivais pas à décrypter, au repas de famille, cette nostalgie, moi je connaissais pas le pays, je connaissais pas l'histoire, donc tout ça était un peu pesant. Et puis ensuite, en entrant au lycée, je commence à apprendre un petit peu des choses sur ce qui s'est passé. Et puis surtout, j'ai des effets retours en fait par mes camarades quand je commence à dire que je suis enfant de pieds noirs, etc. Et là, c'est un petit peu désagréable puisque on me fait comprendre que en fait, j'appartiens à une famille de potentiels tortionnaires. de gens vraiment infréquentables, en plus vulgaires, mangeant des plats avec de l'huile d'olive et de l'ail, ayant comme figure iconique Enrico Macias, Marthe Villalonga et Robert Castel, c'est-à-dire quand même en gros des ploucs. Moi j'étais dans un grand lycée parisien, avec plein de gens de gauche issus de la bourgeoisie du centre de Paris, et c'était... Enfin, maintenant, tout ça me fait sourire, mais à l'époque, je comprenais bien que j'avais pas le bon pédigré. Donc, raison de plus pour vraiment essayer de pas trop m'intéresser à tout ça. Et puis, bah, c'est un peu plus tard, en fait, c'est la mort de ma grand-mère qui a déclenché tout d'un coup mon intérêt pour toute cette histoire, l'envie d'aller voir le pays, parce que je considérais que, malgré tout, ça faisait partie de moi. Même indirectement. Et quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais partir en Algérie, ça a été quand même la panique à bord. Et on a essayé de me dissuader, j'ai reçu des coups de fil, alors très gentils, etc., mais qui m'expliquaient que c'était dangereux, qu'il fallait au moins que je fasse ça dans un voyage organisé, etc., etc. Et du coup, ma mère s'est quand même un peu mobilisée et elle m'a mise en contact avec un ami, donc un monsieur algérien vivant entre Paris et Alger, qui devait être à Alger au moment où moi j'allais y atterrir. Il s'appelle Jafar Lesbet. Maintenant il est à la retraite, mais il est architecte, il a aussi une formation de sociologue, et c'est quelqu'un... Bon, ça a été un peu la chance pour moi de ce voyage. C'est avec lui que je suis partie dans les Aurès. Tous les deux, dans une petite voiture. On a parlé non-stop pendant 3 jours dans cette voiture. Et c'était assez cocasse, puisque lui, eh bien, est fils de Moudjahidine. Donc il se souvient lui-même, adolescent, d'avoir participé, en fait, à des combats, côté FLN, évidemment. Puis son père, son frère, enfin bref. Et voilà, avec, donc à côté, dans la voiture, moi, petite fille de colon. C'était une chance de pouvoir être comme ça une sorte de tandem un peu au long cours.
Est-ce qu'il comprenait votre démarche ?
Ah, il la comprenait très bien, et je pense que ça le touchait.
Alors, le spectacle, il s'appelle donc, le titre c'est Algérie avec S à la fin.
Nasser Hamzaoui.
2 points et retour en musique. Et on essaie de décrire de façon un peu chronologique les origines un petit peu avant 1830, mais surtout à partir de 1830 jusqu'à l'indépendance, ce que jouaient, ce qu'écoutaient les Européens habitant l'Algérie et les Algériens qu'on appelait les indigènes, et bien sûr, quelles sont les connexions qui ont pu se faire dans un sens ou dans un autre.
Et on nourrit d'ailleurs notre spectacle de la mémoire. On est tout le temps à se dire, et toi, comment ça se passait à la Casbah, et moi, Bel Abbès, est-ce que tu voyais des Européens? Est-ce que moi, j'écoutais de la musique arabe? Personnellement, j'ai jamais entendu une note de musique arabe à l'époque. On n'avait pas la connaissance du voisin. Des musiques qu'on entendait toujours un peu de loin, dans un mariage la nuit, derrière un mur, un mariage arabe. La plupart des témoins disent que la seule chose qu'ils entendaient, c'est quand il y a des musiciens ambulants qui passaient avec des carcabou, des castagnettes et un taureau noir pour faire la manche dans les quartiers européens. C'est la seule chose qu'ils entendaient, mais presque par intrusion finalement. Disons qu'on joue ensemble des musiques qui ne se jouaient que séparées à l'époque, et on croise enfin des mémoires qui ont toujours tendance à être séparées. Benjamin Stora parle de la guerre des mémoires. Chacun cultive, et c'est un peu normal, la mémoire des siens et ses propres douleurs. Mais c'est pas si fréquent que ça d'avoir un terrain créatif où l'on peut mêler les mémoires et les compléter, ne pas rester hémiplégique en fait au niveau de la mémoire.
Le but du voyage, dans un premier temps, c'était d'aller voir tous les lieux dont j'avais entendu parler, à Alger et dans les Aurès. Puisqu'en fait, donc, ma famille, mes grands-parents étaient dans les Aurès, et ils ont quitté les Aurès en 1954, au moment du démarrage de la guerre, puisque leur ferme a été brûlée, et qu'ils se sont carapatés en quatrième vitesse à Alger pour se mettre à l'abri, en fait. J'avais un peu perdu de mes illusions d'enfant, mais quand même, j'avais entendu parler de ces maisons par ma grand-mère. C'était Versailles, hein, quand elle en parlait. Voilà, c'est des vraiment belles maisons avec des escaliers en marbre, etc. Et la gamine que j'étais, quand elle me racontait tout ça, s'était fait un tableau qui n'a vraiment rien à voir avec la réalité. En fait, de château, c'était des toutes petites maisons, très 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 modestes, mais vraiment très modestes. Alors évidemment, ça changeait rien, encore une fois, au fait colonial. Mais bon, bah, je pense que à distance, avec la douleur de l'exil, ils avaient complètement embelli et magnifié leurs conditions de vie et leurs fameuses maisons. Donc je voulais voir les maisons, je voulais voir les cimetières, et surtout je voulais rencontrer des gens qui auraient connu ma famille dans ces villages, qui pourraient m'en parler. Et je l'ai compris en cours de route, je ne me l'étais pas formulé en prenant l'avion. Je pense que j'avais besoin qu'on me parle de la façon dont s'étaient comportés mes grands-parents. Puisqu'ils étaient grands propriétaires et que donc ils étaient voilà, colons au sens strict du terme. C'est vrai que je suis partie avec une charge, la charge de l'histoire sur mes petites épaules. Et je pense que j'avais besoin de peut-être d'être rassurée sur le fait qu'ils n'avaient pas été trop méchants, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai visité les maisons, j'ai parlé à des gens. D'abord, j'ai été très bien accueillie. Et j'ai trouvé que le dialogue était facile et franc, mais pas agressif. J'étais un peu rassurée parce que, en dehors du fait d'être grand propriétaire terrien et colon, visiblement, mes grands-parents ne sont pas particulièrement mal comportés. Pour autant, tous ces gens-là m'ont parlé de ce que c'était d'être colonisé. Du sentiment quotidien d'humiliation, mais l'inégalité de droit, de statut et évidemment de richesse, bah ça, ils en ont un souvenir quand même très fort. Donc, après avoir vu les maisons dans les Aurès, hein, il s'agissait de voir l'appartement de mes grands-parents et de ma mère à Alger. J'en avais beaucoup entendu parler, notamment d'une terrasse qu'avait cet appartement à un étage élevé, d'un immeuble donnant sur la baie d'Alger. Enfin, toujours pareil, c'était la plus belle terrasse du monde, avec la plus belle vue du monde, sur la plus belle mer du monde. Et donc, je suis allée dans l'immeuble, je suis montée à l'étage, j'ai frappé à la porte. C'était un peu, toujours un peu, j'étais un peu fébrile quand même, c'est pas très évident comme démarche, de dire coucou, j'arrive, ma famille était là, avant vous, etc. Et là, encore une fois, grosse surprise, un accueil extraordinaire, mais bien sûr, enfin, une famille super sympa qui m'a accueilli. Ils sont allés chercher des petits gâteaux, ils m'ont montré l'appartement. C'était touchant parce que, alors que moi, je n'avais jamais mis les pieds par définition dans cet appartement, mais ils n'arrêtaient pas de me montrer à quel point, à tel endroit, ils avaient refait les joints, à tel endroit, là, ils avaient repeint, enfin, comment ils en avaient pris soin. C'était assez troublant. Voilà, ils m'ont réinvité à manger le couscous 3 jours après. Bon, c'était vraiment très, très émouvant. Et puis, au retour à Paris, je raconte ce voyage à ma mère. Et je lui montre notamment les photos prises sur cette fameuse terrasse à Alger. Et là, je la vois tiquer, froncer les sourcils. Elle me dit, mais t'en as d'autres, des photos? Alors, je lui montre tout ce que j'ai. Et elle me dit, mais c'est bizarre, c'est pas comme ça, la terrasse. En fait, il y avait des colonnes, etc. Et à l'instant précis, je me dis 2 choses en même temps. Je me dis, je n'ai pas visité le bon appartement. Je me dis, pour essayer de repousser cette idée, non, mais en fait, ils ont dû faire des travaux, etc., etc. Et elle me dit, mais t'es allée à quel étage? Je lui dis, mais maman, je suis allée à l'étage que tu m'as indiqué, au 6e. Elle me dit, mais je t'ai dit le 6e? Je dis, oui, tu m'as dit le 6e. Mais non, mais on était au 7e, Olivia. On habitait au 7e étage. Tu n'es pas allée dans le bon appartement. Et alors là, c'était vraiment une sorte De choc quand même intérieur. En même temps, ça m'a fait rire parce que d'avoir fait tout ce cirque, d'avoir dérangé cette famille qui a sorti les gâteaux, le thé, on a eu des grandes conversations sur la France, l'Algérie, etc. dans un appartement où précisément personne de ma famille n'avait jamais vécu. C'était un peu surréaliste, mais ça m'a fait comprendre qu'en fait, peu importait les murs, ce qui comptait et ce qui avait compté dans ce voyage, j'allais pas chercher du patrimoine ou immobilier, j'allais rencontrer des gens. Donc cette famille vivait dans cet appartement qui n'avait aucun lien avec ma famille. Néanmoins, ils avaient eux aussi visiblement envie de parler avec une Française issue d'une famille pied-noir. Et je pense que c'est ça qui compte, quoi. En tout cas, c'est ça qui a compté pour moi.
On essaye de trouver derrière les chansons les plus anodines, comme par exemple « Chérie, je t'aime ».
Martial Pardoux.
« Chérie, je t'aime », tout le monde s'en souvient. « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore ». Ça apparaît une chanson très très quelconque, comme ça, très commerciale, très sympa, que tout le monde chantonnait. Mais c'est une chanson très riche au niveau de sa signification. « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore ». Bon, ben, c'est en français, tout le monde comprend. « Como la salsa de pomodoro ».« Como la salsa », c'est en espagnol, et « des pomodoro », c'est en italien. Donc déjà, on a les paroles coloniales qui sont rassemblées. Et en général, la mémoire des Européens s'arrête là, parce qu'après, ça passe en arabe. Ya Mustafa, ya Mustafa, ana bahabak, ya Mustafa. Oh Mustafa, je t'aime, oh Mustafa. Ça veut dire que cette chanson est apparue, a fait un tabac dans les années 60-61, au moment où ça se massacrait à tous les coins de rue. Et c'est une chanson qui dit « Je t'aime, Mustapha ». C'est-à-dire, un homme dit à un autre homme arabe « Je t'aime ». Et c'est la raison pour laquelle un chanteur juif algérien, Staïfi, a été interdit par l'OAS de chanter cette chanson, parce que l'OAS, à tort, a cru que c'était une sorte d'hymne populaire du FLN, du nationalisme algérien. Donc il a reçu la visite dans un hôtel à Paris, pendant qu'il jouait à l'Olympia, de trois hommes d'un commando OAS qui lui ont dit « Ben, c'est vous, monsieur Darmon, dit Staïfi, oui, ben, vous avez chanté « Chérie, je t'aime », oui, eh bien, c'est fini, vous le chantez plus ». Et si j'ose dire, ça a flingué sa carrière, quoi, parce que c'était un tube, c'était une locomotive, ce morceau. Mais même dans l'antagonisme, il y a des ressemblances. On s'amuse avec Nasser de montrer que, des choses graves d'ailleurs, hein, mais que même dans les slogans les plus opposés, par exemple Algérie française, Algérie française, eh bien en face, la réponse était Tahia Jezaïr, Tahia Jezaïr. C'est-à-dire le même rythme, mais renversé.
En fait, l'idée de faire quelque chose de ce voyage est venue pendant le voyage. Je suis pas partie pour faire ça.
Olivia Burton.
Non pas que j'ai eu des révélations extraordinaires, des secrets de famille qui auraient tout d'un coup éclos à la faveur du déplacement, mais bon, ça a été quand même une expérience très forte. Et donc en rentrant, je me suis dit, ça serait bien de garder la trace en fait de cette expérience-là, en pensant que très modestement. Cette trace-là, donc ce livre, pouvait contribuer à un plus vaste mouvement hein, qui existe depuis le début des années 2000 dans la littérature, dans le cinéma, dans le documentaire, justement d'œuvres ou de créations émanant d'enfants d'eux, ou maintenant de petits-enfants d'eux, je le vois au théâtre, qui consiste à dire, bon, on met une petite pierre là pour construire faire une grande métaphore, pour construire un pont entre les deux rives. Et c'est vraiment dans cette idée-là, à ma très très modeste mesure, que je me suis lancée dans cette aventure de la bande dessinée. Je pense que j'avais hérité quand même malgré tout, et c'est pas simplement de la part de ma famille pied-noir, je pense que c'est globalement quelque chose en France, d'une vision inquiétée de l'Algérie. C'est-à-dire quand vous dites Algérie, vous voyez, le mot il résonne pas, enfin en tout cas, maintenant c'est terminé pour moi, mais à l'époque, ça résonne pas comme Suisse ou Costa Rica ou Grèce, vous voyez. C'est-à-dire que c'est quand même, ça charrie un imaginaire compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une bande dessinée, je pense, c'est que il y avait cette question des images, il y avait cette question des fantasmes, c'est-à-dire comment on imagine des gens, un pays, et comment le fait de se confronter au réel, enfin à une forme de réel, de les rencontrer, de discuter, modifie la vision Donc aujourd'hui, moi, quand j'entends Algérie, j'ai plus un nuage noir avec des choses inquiétantes et tout ça qui se forment dans ma tête. J'ai plutôt l'envie d'y retourner et de continuer à découvrir le pays. C'est très apaisé. Je pense que justement, la génération qui n'a pas la mienne, la suivante, nous qui n'avons pas vécu en direct les traumas, c'est nous qui avons la possibilité de passer à autre chose. Moi, je peux pas reprocher à mes grands-parents ou même à la génération de mes parents d'être resté un peu bloqué sur tout ça, parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est que de vivre 8 ans de guerre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, comme ma mère me l'a raconté, d'avoir eu son meilleur ami fusillé dans ses bras dans la rue, etc., etc. Vous voyez, je pense que depuis Paris, dans un café, c'est très facile de juger les uns et les autres. En revanche, nous, enfants d'eux, petits-enfants d'eux, je pense qu'on a une forme de, sinon de responsabilité, en tout cas, on doit sortir de ça. Enfin, moi, j'ai jamais baigné dans la rancœur, mais on doit tirer le dialogue vers le, je sais pas si c'est le haut, en tout cas, le déminer, quoi.
Moi, j'ai pas grand-chose à transmettre. À part de dire, alors on le dit maintenant à Lazare, et puis mon Martial, il a 2 mois, donc là, c'est un peu tôt. Mais maintenant, je dis, oui, que 2 de ses grands-mères sont algériennes, ce qui, il y a 10 ans, me serait pas du tout venu à l'esprit que ma mère était algérienne. Mais qu'est-ce que j'ai à transmettre, moi? La bouffe. Le vin d'orange. Le vin d'orange. Et puis voilà, expliquer que si, quand même, une histoire, mais une histoire française finalement.
Ben moi, c'est ça que je trouve hyper étonnant, c'est-à-dire que tu dises, moi, je suis pas pied noir ou je suis pas algérien. En fait, bah si, toi, toute l'histoire de ta famille depuis 5 générations, c'est en Algérie. Donc même s'il faut trouver une manière, effectivement, d'Algérien européen ou je sais pas, ou juste au contraire, il faut dire algérien, bah ta famille, elle est algérienne. Donc si tu veux transmettre l'histoire de ta famille à ton fils, à un moment, tu vas bien être obligé de parler de l'Algérie, tu vois, c'était pas hors sol. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant chez plein de copains pieds noirs. C'est que, c'est parce qu'on leur a transmis les choses de cette manière-là, bien sûr, hein, j'imagine, mais eux-mêmes, ils se présentent pas comme enfants d'Algériens. Ou pour le dire autrement, ils présentent pas ce patrimoine algérien comme étant le leur. Et c'est là où je trouve, moi, qu'il y a une perte et qu'il y a un vrai travail de mémoire à mener. Parce que on a l'impression que nous, les enfants d'immigrés, nous, c'est notre affaire. La colonisation, les souffrances, les enfumades, toutes les horreurs, les expropriations. Et vous, non. Les enfants de colonisés, ce serait à nous de faire le boulot. Ben non, désolé les copains, mais vous aussi, il faut bosser. Hein. Il faut aussi faire ce travail de mémoire, parce que l'histoire nous appartient à tous, non, quoi. Mais pas ça, que à nous.
Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un... Comment que ce qu'il y a à transmettre, c'est une histoire de la France, mais du vécu familial, moi, il me reste... quelques souvenirs qu'on m'a racontés, quelques photos. Mais je veux dire, en librairie, il n'y a pas de contes pieds noirs. Il n'y a pas de livres musicaux pieds noirs. Ça ne veut rien dire, en fait.
Bien, ça ne saurait tarder, ben... car la collection...
Non, mais je veux dire, moi, j'ai acheté pour Lazare des contes kabyles. D'ailleurs, c'est moi qui les ai achetés, c'est pas toi.
Ouais.
Je n'ai pas trouvé de contes pieds noirs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de livre de cuisine pieds noirs.
Ah si, ça c'est sûr.
Je crois pas.
Si, si, ça c'est sûr.
À vérifier, chers
comment
auditeurs.
Cuisiner vous... poivrons.
Ouais, mais à mon avis, ça s'appelle cuisine algérienne.
À la façon d'Henri Comasse.
Ou cuisine nord-africaine. Mais ça s'appelle pas cuisine pieds noirs. Mais donc, voilà, on va transmettre
Bah si, on commence déjà, parce que quand on explique à Lazare, voilà, que sa grand-mère est née, enfin, que les 3 grands-parents sont nés en Algérie, Gabriel dit, et Jean-Pierre, celui qui est né dans le nord de la France, et on dit non, lui, il n'est pas né en Algérie, et on sent qu'il est triste pour Jean-Pierre de ne pas faire partie, ou là, pareil, on lui a montré son passeport algérien, à Lazare, et je vais montrer le mien et celui là que je vais faire à Martial, j'en ai parlé. Et pareil, il était hyper inquiet de comprendre que son père n'en avait pas. Il disait, mais pourquoi papa, il n'a pas le vert? Je disais, ah mais parce que, alors papa, il n'est pas algérien, mais maman, elle est algérienne. Donc là, ça commence à être très très inquiétant pour Lazare, surtout quand on a commencé à dire que Elisabeth était algérienne mais qu'elle n'avait pas le passeport vert. Bon là, on a tout de suite arrêté.
Là, on l'a perdu quand même.
Là, on s'est mis à jouer au à qui est-ce et on a arrêté de faire ça. Mais ça va être bien sûr une question de comment on lui transmet ça. Mais je pense pas que ça va poser problème parce que déjà on va l'emmener en Algérie, donc il va voir que c'est un pays, enfin que c'est une terre, que c'est, il va pouvoir se projeter dans ces, enfin sur ce territoire. Et aussi, ce qui va changer par rapport à ce que nous on a peut-être pu vivre il y a quelques années, c'est que on est en train de faire ce travail de se réconcilier, si on veut, avec avec cette histoire algérienne.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Algérie française, Algérie française.
Yahya, Jazaïr.
Algérie française, Algérie française.
Yahya, Jazaïr. Tahia, Jazaïr, Tahia, Jazaïr.
Merci à Daniel Michel Chiche, Nicole Guiraud, Elisabeth Pujol, Jean-Baptiste Ducéo, Salima Tenfish, Martial Pardo, Nasser Hamzaoui, Olivia Burton. Merci au studio de Radio France à Lyon. Extrait de Lettres à Zoradé de Daniel Michel Chiche. Lecture, Johanna Nizar et Elodie Vincent. Prise de son, Nadège Antonini, Benjamin Reyes, Clément Vuillet, Stéphane Foulon, Dali Yaha et Chantal Nouvelot. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodores. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodores. Ya Mustapha, ya Mustapha.
Les pieds noirs d'Algérie, la colonisation pour mémoire. Épisode 4, sortir de la fatalité. Un documentaire de Marceau Vassy, réalisé par Cécile Lafou.
Tu m'allumais comme une allumette et tu me fais tourner la tête. Tu m'allumais comme une allumette et tu me fais tourner la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodores. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ay, ya Mustafa, ya Mustafa, ana ma hibbuk ya Mustafa. Seb'a sinin fel attarin, del waqti dina shimak. Si